Bonjour à tous, vous écoutez Derrière le rôle, un podcast qui vous permettra d'en savoir plus sur ce qu'il se cache derrière la création de parties de jeux de rôle. En somme, bienvenue dans les coulisses. Amis poditrices, amis poditeurs, amis rôlistes amateurs ou confirmés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière le rôle, l'épisode 10 cette fois où on va rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le gras du sujet on va dire. Alors je vous rappelle que les premiers épisodes avaient pour but de définir un petit peu ma vision du jeu de rôle, parce que je vous rappelle que je vous donne plein de trucs et astuces en vous précisant bien que si elles ne vous plaisent pas, il faut pas les appliquer, mais c'est un peu ma façon de masteriser, ma façon de mener les joueurs, ma vision du joueur aussi, et je peux totalement comprendre qu'elle ne plaise pas à tous. En attendant, il était obligatoire pour moi de vous expliquer tout ça afin que vous compreniez ce qu'on va faire à partir de maintenant, puisque le but premier de ce podcast, c'était qu'on crée ensemble une partie de jeu de rôle, une partie pour les joueurs, que je vous explique un petit peu comment je procède, ce que je mets, pourquoi je le mets, ce que j'enlève et pourquoi je l'enlève. Alors, si j'avais fait ça dès le début, vous auriez été en droit de vous dire, mais attendez, pourquoi il change le nom des PNJ, pourquoi il décrit pas les lieux comme ils sont décrits dans le bouquin. Bon, je pense que maintenant, vous avez un petit peu compris, hein, la base pour moi du truc, c'est quand même de faire en sorte que ça soit fluide et lisible, enfin du moins écoutable. Et j'ai tendance à supprimer les détails, même pas forcément des détails, mais les choses qui me paraissent pas propres à l'immersion que je souhaite donner à mes joueurs. Voilà, par rapport aux autres astuces, vous allez comprendre très bientôt pourquoi il y a certains scénarios que je passe totalement sous silence, pourquoi il y a des scènes que je fais en 3 minutes alors que ça prend l'équivalent d'une quinzaine de pages. Bon, et j'avais aussi fait un petit peu de teasing concernant le jeu de rôle sur lequel on allait s'appuyer, quel livre prendre. J'en avais pas du tout parlé pendant les 10 premiers épisodes, et maintenant c'est le moment, on va se jeter à l'eau, puisque ce livre, eh bien, il s'agit de Aria. Aria, le jeu de rôle, la dernière création de Fibre Tigre, puisque c'en est l'auteur, édité sous Eldercraft, je crois. Alors pour vous la faire courte, si tant est que ça soit possible, c'est donc, comme je l'ai dit, Fibre Tigre qui a créé ce jeu de rôle. Alors c'est pas son premier jet en termes de création, puisqu'il a fait des jeux vidéo, il a fait des fictions audio, il a fait énormément de choses. Je vous conseille vraiment d'aller lire sa page Wikipédia, le mec est vraiment prolixe, et j'ai l'impression que tout ce qui touche se transforme un peu en or. Alors pour Fibre Tigre, vous pouvez retrouver l'univers d'Aria dans un podcast qu'il a fait qui s'appelle Game of Role. Ces émissions sont aussi trouvables sur Twitch et YouTube. Je vous conseille vraiment vivement d'écouter ces podcasts, ces émissions, parce que moi c'est ce qui m'a donné envie d'investir, envie de jouer à son jeu de rôle. Dans les émissions qu'il présente, il a une bande de potes qui vont faire des aventures. Alors je crois qu'il y a 6 saisons. On peut y découvrir les règles parce qu'il les explique. Et moi je vous avais déjà dit que j'aime bien commencer un jeu de rôle en ayant fait une partie. Alors Aria, je ne l'ai jamais joué. Mais le fait d'avoir écouté ces émissions, bah c'est comme si j'y étais. Parce que à chaque jet, il explique les conséquences, il explique les mécanismes, etc., etc. Alors, si vous comptez jouer à Aria ou même investir dans le bouquin, peut-être que l'écoute de tous les épisodes n'est pas recommandée, parce qu'il y a quand même quelques secrets vraiment importants, selon moi, qu'il ne faudrait pas divulguer à vos joueurs. Si vous voulez maîtriser Aria, ne dites pas à vos joueurs « allez écouter ce podcast », parce que ils vont être un peu spoilés. Moi, en discutant avec un ami, il m'a dit « ah, tu vas jouer quoi ?» Je lui ai dit « Aria ». Et il m'a dit « où est-ce que je peux me renseigner là-dessus ?» Je lui ai dit « bon, il y a des podcasts, mais je te déconseille de les écouter avant qu'on ait joué. » Donc voilà, faites attention à ça, encore une fois, si vous voulez garder l'effet de surprise. Alors, avant d'aller plus loin dans la description du livre, je tenais vraiment à préciser, et c'est très important, que c'est pas un podcast sponsorisé. Fibre Tigre, l'auteur ou même la boîte d'édition Eldercraft ne me donne pas d'argent pour parler du bouquin. Je l'ai acheté avec mes propres deniers, d'accord ? Je me suis bien évidemment entretenu très brièvement avec l'auteur via son Discord pour lui dire « bon ben voilà, je vais faire un podcast qui va parler de tel sujet, et il y a des chances que pour ce faire, je m'appuie sur ton livre, est-ce que tu es d'accord ?» Je lui ai précisé que j'allais en dire du bien, forcément, puisque je vais faire des parties avec ce livre, mais je lui ai dit aussi qu'il y avait des choses qui me déplaisaient un peu, que je risquais pas de descendre, parce que c'est pas le terme, hein, mais je risquais de dire, de parler des choses qui me plaisaient pas. Et il m'a dit oui, je suis d'accord à 2000%. Donc je pars du principe que on peut y aller. Alors, pour me procurer ce livre, bah, j'ai bien évidemment suivi la campagne Kickstarter de Fibrotic, puisque ce livre a vu le jour après une campagne Kickstarter qui a explosé. Il y avait des kits d'initiation qui étaient prévus, des PDF, des livres avec bon, bah, tous les pledges possibles et imaginables sur Kickstarter. Me concernant, comme j'étais relativement pressé de l'avoir, j'ai acheté le PDF, parce que les PDF étaient disponibles quelques mois avant le format papier. Bon, après, peut-être qu'aussi à l'époque, financièrement parlant, j'étais pas forcément super avancé. Le PDF coûtait 10 €, donc j'ai acheté le PDF et je l'ai fait imprimer. J'ai rangé ça dans un classeur. Voilà, parce que j'aime pas trop la lecture d'ouvrages quels qu'ils soient sur PDF. Moi, il me faut un support papier. Je suis un petit peu la vieille école là-dessus. Donc, une fois reçu le bouquin, bah, forcément, je l'ai abordé un peu comme tous les autres, la première page. Déjà, les illustrations me conviennent. Je trouve que c'est vachement important quand on nous parle d'un héros. S'il est bien dessiné, on a vachement plus de facilité à s'immerger. Et ensuite, je l'ai abordé comme tous les jeux de rôle, c'est-à-dire que j'ai commencé par lire la description du monde. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'en ont jamais fait, dites-vous bien que, allez, 95% des bouquins de jeux de rôle commencent par une cinquantaine de pages qui vous décrivent l'univers. Ensuite, ça passe sur la description des règles, ensuite un scénario, avec peut-être avant le scénario la création des personnages, donc ensuite vous avez le scénario et ensuite vous avez des prêts tirés et les crédits. Bon, je m'attendais à trouver ce format-là dans ce bouquin. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a choqué en bien, c'est que pas du tout. En fait, ils vous décrivent dans ce livre l'univers, effectivement, et puis quelques pages après, ça part directement dans le scénario. Et là, je me suis dit, attends, parce que là, moi, on m'annonce un scénario, je vois des petites cases à droite à gauche avec des situations à faire vivre aux joueurs, mais je ne sais pas comment on joue, c'est comment on fait un jet de dés, c'est quoi le problème? Et en fait, la création de ce bouquin m'a vraiment plu parce qu'au fur et à mesure où ils vont dérouler le scénario, au fur et à mesure où vous allez dérouler la lecture du scénario, vous allez vous retrouver confronté à des scènes, par exemple un combat. Je vous rappelle que à ce stade-là, vous ne connaissez toujours pas les règles de combat. Et vous êtes totalement en droit de vous dire comment on fait un combat. Et bien juste après la phrase qui dit vous commencez un combat, hop, il y a un petit encart dans le bouquin qui vous décrit les règles de combat. Et là, j'ai trouvé ça assez étonnant. Je me suis dit, ah, c'est marrant que dans le scénario, on parle combat et tout de suite après, des règles des combats. Ben, en fait, dites-vous bien que vous avez un scénario d'initiation dans le bouquin qui fait de mémoire comme ça une dizaine de pages et qui va vous permettre de tout simplement parler des règles en immersion directe avec le jeu de rôle. Et ça, je trouve ça bien parce que la plupart du temps, dans votre bouquin, vous devez mettre des marque-pages un peu partout. À la page 120, il y a les règles. À la page, je sais pas moi, 200, il y a le scénario, et en fait, au fur et à mesure que vous lisez le scénario, vous êtes obligé de revenir en arrière sur les règles, c'est un peu contraignant, ou alors vous êtes carrément obligé d'apprendre les règles par cœur pour que ça soit fluide dans la lecture de votre scénario, et là, c'est pas vraiment le cas. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour moi parce que ce livre se prend vraiment comme un roman. Vous pouvez lire de la première à la dernière page et être cohérent dans votre compréhension de l'objet, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, le premier scénario, il est ce qu'il est, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il va vous faire promener un petit peu dans tous les aspects des règles. Alors on va pas toutes les aborder puisque il y a de la magie qu'on aborde très succinctement, mais on en parlera plus précisément après. Et à la fin de la lecture de ce scénario, en théorie, vous êtes à même de comprendre et d'appliquer toutes les règles. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé cet exemple vraiment fluide. Alors à l'ouverture du bouquin, et comme dans beaucoup de bouquins, vous avez un préambule qui vous explique ce qu'est le jeu de rôle. Alors ça, c'est vraiment pour les novices, c'est toujours bon de faire un petit point là-dessus, parce que quand c'est la première fois que vous ouvrez un livre de jeu de rôle, on va vous dire D20, D6, j'ai en opposition, vous êtes totalement en droit de pas comprendre. On vous l'explique très clairement en préambule, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ma part, dans un premier temps, j'ai un peu squeezé ce passage, je les ai pas lus, parce que je me suis dit, je connais, c'est le même schéma dans tous les livres. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait des gros titres dans ce préambule qui avaient légèrement attiré mon attention. Et en fait, je me suis aperçu que Fibre Tigre, dans le livre, présentait également sa vision du jeu de rôle. Et en fait, c'est là où ça m'a fait un peu tilt, parce que je fais pareil, moi, avec vous qui m'écoutez, les 10 premiers épisodes, c'était ma vision du jeu de rôle. Et je vous explique que c'est important de comprendre la vision d'un meneur pour comprendre ce qu'il en fait. Et là, il nous a expliqué sa vision du jeu de rôle. Et pourquoi il l'a fait, et surtout comment il l'a fait. Donc, on va y retrouver les conseils que je vous cite également, et c'est peut-être pour ça que j'ai souhaité investir dans ce livre, parce qu'il nous dit bien, attendez, moi je fais un livre de jeu de rôle, si toutefois il y a des éléments qui vous plaisent pas, virez-les. Il explique aussi que le but du jeu, c'est de faire vivre des aventures à vos joueurs, qu'ils sont des héros, et donc qu'il faut les mettre en avant. C'est aussi ce que je vous dis. Il parle de la fluidité, il dit également que... Éviter les combats trop longs parce qu'on a tendance à s'endormir. Il cite pour ça des exemples de films où, dans un film, quand il y a des choses de captivantes, vous vous en souvenez. Vous avez du mal dans les films à parler des interscènes, des scènes entre les moments clés, parce qu'elles ne sont pas très intéressantes. Bon, dans le jeu de rôle, j'ai l'impression qu'il a envie de retranscrire cet élément, à savoir du fun axé sur les joueurs. Et moi, ça me plaît, ça correspond totalement à la façon que j'ai de masteriser. Donc, c'est un gros plus. C'est ce qui m'a vraiment aidé à m'immerger dans ce bouquin. En règle générale, un livre de jeu de rôle, quand je l'aborde, je mets 1 à 2 semaines pour le lire dans son intégralité, parce que il y a des passages qui m'ennuient un peu, donc je ferme le bouquin, je le reprends plus tard. Là, sincèrement, en 2 jours, je l'avais lu dans son intégralité, et parce que je partage totalement cette philosophie avec Fibre Tigre, donc le créateur. Alors, tout n'est pas rose, bien évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure que cette création, ce livre, était né d'un Kickstarter. Et un des pledges dans le Kickstarter, c'était, admettons que si vous mettiez 50 euros dans le projet, votre nom se retrouvait dans le livre de jeu de rôle. Alors, ça amène certains problèmes, parce que il y en a certains qui ont des pseudos littéralement ridicules. Je sais pas moi, admettons Kevin du 77. Bon, dites-vous bien que si ce Kevin du 77 a mis 100 euros dans le pledge, son nom va se retrouver un peu dans le bouquin. Alors, c'est un exemple. Dans le livre, il n'y a pas de Kevin de 77, mais on a parfois, et je vais vous donner un exemple tout de suite, on a parfois des noms de PNJ un peu, selon moi, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, selon moi, un peu absurde. Par exemple, dans le scénario qu'on aborde, le scénario dit d'introduction, d'explication des règles, on nous présente le grand maître de la magie d'Aria, une personne qui possède des sorts extrêmement puissants, une personne difficilement abordable, parce qu'il est très occupé, forcément, c'est le grand maître, et ce type s'appelle Alpha Pizza. Moi, j'ai tiqué. Alpha Pizza. Ça m'embête un peu. Et on va en retrouver un petit peu comme ça dans le bouquin. Alors, quand il s'agit de PNJ mineurs ou de vendeurs de brioches à la sauvette dans la rue qui s'appellent Kevin du 77, ça me dérange pas trop. Mais le grand maître de la magie qui s'appelle Alpha Pizza, ça a tendance un petit peu à m'embêter. Mais rassurez-vous, dans le bouquin, il est dit que s'il y a des choses qui vous embêtent, enlevez-les. Je vous le rappelle aussi suffisamment souvent dans les épisodes, enlevez-les. Donc moi, typiquement, je spoil un peu la suite, mais cette personne qui s'appelle Alpha Pizza, je ne vais pas l'appeler Alpha Pizza, je vais l'appeler Alpha Pi. Parce qu'il y a Alpha, Pi, tout ça, les Delta, machin, ça peut coller. Alpha Pi pour un grand maître, ça colle beaucoup mieux que Alpha Pizza, je trouve. Et j'ai l'impression qu'en termes de crédibilité vis-à-vis de mes joueurs, si je dis, voilà, vous vous retrouvez devant un grand maître de la magie Alpha Pizza, il va y avoir quelques petits éclats de rire, et cette personne, à juste titre, ne sera pas crédible, et ça m'embête un peu. Donc, qu'à cela ne tienne, hein, encore une fois, vous allez voir qu'on va changer énormément de choses. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut déplaire, mais bon, rien n'est figé dans le marbre, vous pouvez totalement changer ce genre de détails. Alors c'est maintenant le moment de l'interlude, hein. Souvenez-vous, ce petit moment qui vous permet de faire une petite pause, de reprendre un peu vos esprits, d'assimiler un petit peu toutes les informations que je vous ai données. Et alors on va faire une interlude sur un outil que vous connaissez forcément tous, mais que vous n'appliquez pas forcément dans vos parties de jeu de rôle dématérialisées, principalement en présentiel, ça peut aussi fonctionner, il s'agit du Google Doc. Pourquoi Google Doc? Parce que dans vos parties en présentiel, vous avez souvent tendance à avoir plein de joueurs qui prennent des notes. Alors ça peut avoir son intérêt que chaque joueur à part prennent des notes, peut noter des secrets, des éventuelles quêtes, mais je trouve, et j'applique ça de plus en plus, important qu'il y ait une feuille de route commune. Et bien souvent, on confie à un joueur un papier, il va prendre des notes, il va pourquoi pas la faire passer aux autres joueurs qui peuvent eux aussi agrémenter ce papier de notes, nom de PNJ, se souvenir d'un lieu, etc., d'une quête, d'un objet. Et bien souvent, on est confronté au fait que la personne soit oublie la feuille, soit on oublie tout simplement qui avait la feuille à la dernière partie, et c'est un peu embêtant. L'avantage du Google Doc, bah, c'est que vous fournissez à vos joueurs un lien Internet tout à fait classique, avec un partage de fichiers sur le Google Doc, et que ce fichier est accessible absolument partout, consultable par tout le monde. Vous pouvez aussi faire en sorte que certaines personnes n'en aient pas accès, ne voient pas le contenu, ne puissent pas le modifier, etc. etc. Et je trouve ça vraiment pratique. Nous, on joue, vous l'avez compris, depuis le confinement et aussi depuis le fait que j'ai déménagé à peu près 800 km de mes joueurs, on joue vachement sur Discord. Et on s'est trouvé confronté un peu à ce problème, c'est-à-dire qu'on avait 10 minutes dans la partie où on mettait un peu en commun les notes. Alors, vous avez noté quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, et bien avec le Google Doc, on a plus ce problème. C'est-à-dire qu'avant la partie, je balance le lien en disant à mes joueurs, relisez un petit peu ce que vous avez fait, il y a peut-être des PNJ qui peuvent être utiles, et même au cours de la partie, quand les joueurs sont confrontés à quelque chose qui les bloque, et que cette solution est dans le Google Doc, bah, je leur dis, vous avez toujours votre feuille de route. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais ça reste du numérique accessible partout. N'oubliez pas que vous avez la main sur cette chose, que vous pouvez corriger, modifier ou effacer des trucs. Donc, encore une fois, c'est libre accès. Et je trouve aussi quelque chose que j'appliquerai également dans les futures parties. Je trouve aussi pas mal de récompenser le joueur qui tient à jour ce cahier. Alors chaque joueur il va du sien, alors un nom et une rapide description, mais libre à vous de faire une petite mise en page. Vous pouvez utiliser une calligraphie un peu spécifique, vous pouvez, n'importe quoi, surligner en gras, en rouge, etc. Bon bah moi, une personne qui tient à jour ce fichier, j'ai tendance à le récompenser un peu en objet ou en XP. Encore une fois, ça dépend du jeu de rôle. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien ce qui se passe interpartie, moi. Quand la partie est finie, bah, la partie elle est pas finie, en fait, parce qu'il y a toujours cette petite astuce. Donc voilà, le Google Doc est pas mal, ça peut aussi servir à partager des cartes, par exemple, à les mettre en commun. Alors vous allez me dire, oui, mais il existe des choses quand même vachement plus simples que le Google Doc, à savoir Roll20, par exemple, ou je crois que c'est Roll20, qui, là, vraiment permet de simuler des tables. On peut importer son avatar, on voit une pièce, vous pouvez choisir des corps. Alors c'est très bien, mais ce n'est pas accessible. Qu'est-ce que l'accessibilité ? Bah, c'est rendre possible la lecture du soft, du programme, aux personnes malvoyantes, par exemple. Et dans mes joueurs, j'ai quelqu'un qui est malvoyant, il est aveugle. Donc, il a besoin d'outils relativement simples et accessibles. Et il s'avère que Google Doc est doté d'une lecture automatique. Il suffit de poser sa souris sur la phrase pour que la lecture commence. C'est accessible. Et Roll20 ne l'est pas encore. Malheureusement, le public atteint de cécité dans le jeu de rôle est trop peu présent. Et du coup, le développement ne se fait pas dans ce sens. C'est un peu dommage. Donc, on est resté sur quelque chose de relativement simple et pratique. Pas très ergonomique, pas très joli. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait le taf. Autre chose qui me déplaît un petit peu, hein, comme quoi je vous ai bien dit que c'était pas sponsorisé, parce que je me laisse le droit de dire des choses qui me plaisent pas. Dans la construction du livre, après le premier scénario d'initiation, vous allez trouver la description de différents continents. Et à chaque description de continent, vous allez avoir un texte qui explique ce qui s'y passe, ce qu'on y trouve, etc., plus une carte du monde. Alors ça, c'est très bien, les cartes, on peut s'appuyer dessus, et vous allez voir sur ces cartes, qui sont assez bien détaillées, plein de petites icônes différentes et dans tous les sens. Il y en a absolument partout et dans toutes les régions. Alors ça peut paraître un peu délicat de les comprendre, mais rassurez-vous, il y a un lexique, et en fait, on s'aperçoit assez vite que il y a des quêtes qui se trouvent un petit peu partout. Alors là, on se dit, c'est très bien, des quêtes, ça donne des idées. Mais je me dis, cette présence de quêtes quasi systématiques me rappelle beaucoup trop les jeux vidéo. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, par exemple, World of Warcraft, je vous explique, vous avez votre personnage qui déambule dans le monde, et quand il est face à un PNJ avec un point d'exclamation au-dessus de la tête, vous savez que c'est une quête. Donc il va vous donner votre quête, vous allez le faire, vous allez tuer 15 sangliers, ramasser des dents de sangliers, vous allez venir le voir, il va vous donner une récompense. Et quand cette quête est validée, ou validable du moins, ce PNJ n'aura plus un point d'exclamation, mais un point d'interrogation. Et vous, en tant que joueur, après quelques heures de jeu, vous comprenez vite que le point d'interrogation, c'est pour rendre une quête. Et bah, dans Aria, on retrouve exactement ce même schéma. Vous avez face à vous la carte d'une ville, et vous avez des points d'exclamation situés un peu partout. Vous êtes en droit de vous dire que si j'emmène mes joueurs à cet endroit, vous regardez votre carte, ok, il y a un point d'exclamation jaune, c'est une quête. Alors après, il y a des points d'exclamation rouge où c'est une quête personnelle. Il y a aussi des icônes pour définir qu'un personnage a quelque chose à dire d'important. Et là, quand on regarde les textes à dire, dans le livre, il est dit qu'il faut lire à haute voix le texte. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal. Je préfère le franc-parler, le parler directement aux gens plutôt que de lire un texte. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment un détail. J'insiste vraiment sur la multiprésence de ces quêtes qui m'embête un peu. J'ai l'impression d'être un peu trop dans un jeu vidéo. Alors ça ne dérange qu'à la lecture, encore une fois, dans l'interprétation de la partie, vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah, il y a une personne qui vous alpague pour vous donner une quête ». Non, parce que vos joueurs ne sont pas forcément obligés de parler à cette personne. Mais voilà, il faut savoir. Alors, dans la construction moi, du scénario dont on va parler peut-être un peu plus tard, il y a énormément de quêtes que je ne fais pas. Je les ai toutes lues. Et comme d'habitude, quand je fais une création de scénario, j'en jette les trois quarts. Je garde l'idée des restantes pour essayer d'en faire une espèce une compote, quoi, un peu digeste, où je garde les idées principales des quêtes qui me plaisent. Je vous encourage d'ailleurs à faire pareil. C'est pas parce que dans le livre de jeu de rôle, vous avez à tel endroit une quête qu'il faut absolument la faire. Si ça colle pas avec votre scénario, si vous vous sentez pas de la faire, si vous pensez que les joueurs ne vont pas accrocher ou si ça colle pas à leur BG, il faut vraiment pas hésiter à changer tout ça. Encore une fois, c'est vous le maître du jeu. Ah oui, et un autre élément également extrêmement important dont j'ai totalement oublié de vous parler en préambule, c'est que Aria est un univers médiéval fantastique, low fantasy. Donc on va y retrouver des chevaliers, des épées, des dragons, et low fantasy, ça veut dire que la magie est peu présente. Chose légèrement étrange quand on lit les règles de magie. Les règles de magie se jouent avec des cartes à jouer, un jeu de 54 cartes qui vont définir le sort que vous lancez. Alors pour la plupart c'est du hasard, vous pouvez un petit peu réduire cette part de hasard, mais la plupart du temps les effets des sorts sont définis une fois que vous tirez cette carte. Vous avez un jeu de cartes caché face à vous, vous tirez la première carte de ce paquet et en fonction de sa couleur et de sa puissance, vous avez des sorts plus ou moins puissants. Par exemple, si vous tirez un 2 de carreau, par exemple, vous pouvez pousser un caillou magiquement. Et si, à contrario, vous tirez un as de carreau, vous pouvez faire tomber une météorite à un endroit précis. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se jouer. Alors, c'est sympa, mais ça m'embête sur plusieurs points. Déjà, l'idée que le joueur ne puisse pas totalement maîtriser sa magie. Ça m'embête un peu dans les effets voulus. J'ai l'impression, bah, peut-être que je me trompe, que les joueurs vont un peu hésiter à utiliser la magie parce qu'ils vont se dire j'ai juste besoin de pousser un caillou, mais si je tape un as de carreau, j'aurais pu faire tomber une pluie de météorites. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de tirer une carte, parce qu'il faut savoir que la carte, une fois tirée, elle est détruite, elle est perdue à tout jamais. Est-ce que ça vaut le coup de craquer une carte pour pousser un caillou, sachant que j'aurais pu faire bien pire? Alors après, c'est peut-être le propos du jeu, parce qu'il est bien précisé que la magie est assez rare, et c'est peut-être pour ça qu'elle est rare, parce qu'elle est très précieuse. Et le mot précieux revient souvent. En effet, une carte jouée est une carte détruite. De plus, quand vous abusez de vos cartes, parce que libre au personnage de craquer 10 sorts dans la même minute, il n'y a pas de problème, mais quand vous n'en avez plus, vous allez avoir des problèmes. Et ce n'est pas des problèmes genre vous avez des crampes d'estomac. Non, ce sont des gros problèmes. Voilà. Donc, peut-être que c'est le propos du jeu, ça je m'en rendrai peut-être compte durant les parties, mais de mémoire, dans l'actuel play, alors est-ce que c'est pour le côté un peu spectacle, je crois me souvenir que les joueurs n'hésitent vraiment pas à lâcher des sorts. Alors bien évidemment, à chaque fois, il y a une petite larme qui coule parce qu'ils jettent cette carte tout simplement. Donc on verra bien sur le long terme. Autre point qui me déplaît un peu, ben c'est l'acquisition des paquets de cartes. Alors vous allez me dire, oui, mais un paquet de cartes, ça vaut 1,20€. Oui, mais alors moi, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est de se munir uniquement de quelques dés, et c'est tout. quelques dés, un papier, un crayon. Là, on va rajouter des cartes. Je sais que c'est chez certains joueurs, en fonction de la configuration de leur table ou de leur... Bah, ils n'ont pas forcément des cartes sur eux. Et cette, entre guillemets, pseudo-obligation d'avoir un jeu de cartes sur soi pour jouer, sachant qu'on fait une partie toutes les 2-3 semaines, ce qui veut dire que le paquet de cartes devra rester un peu à l'écart. Enfin, après, c'est peut-être... Je me perds un peu dans des considérations logistiques qui, finalement, moi, m'embêtent, mais qui n'embêtent pas mes joueurs. Mais je sais que, de mémoire, déjà, avoir plusieurs types de dés, ça m'embête. Avoir sur la table des 4, des 6, des 10, des 20, bon, ça m'embête. On a joué à pas mal de jeux avec uniquement 3 des 6, et franchement, je trouve ça très bien, quoi. Plus il y a de dés, plus ça complexifie les choses, et là, on rajoute un paquet de cartes. Bon, c'est un peu l'aspect qui me dérange. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé de possibilité de changer ça. Encore une fois, on va bien voir comment ça va se dérouler. Dans l'actuel play, là, qu'on peut trouver sur Twitch, ils s'en sortent, mais encore une fois, il y a une logistique qui est complètement dingue par rapport à nos parties de simples mortels. Que d'ailleurs, Actual Play, que je vous conseille vraiment d'écouter, c'est vraiment formidable ce qu'ils font. Alors, pour continuer à parler du jeu de rôle, concernant la création de personnages, c'est un système qui n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que c'est un système qu'on peut retrouver dans d'autres jeux de rôle, notamment Cthulhu. C'est le système décent. Alors, c'est un système qui a fait ses preuves, qui marche très bien, hein. Admettons que vous ayez dans une compétence 80, vous jetez un décent. Si vous faites moins que votre compétence, l'action est réussie. Alors, j'aime bien parce que vous êtes totalement en droit de vous dire « si je fais 11, c'est réussi ». Et si je fais 79, c'est réussi aussi. Oui, en effet, c'est vrai, vous avez fait moins que votre compétence, mais il y a une interprétation vachement plus large du résultat, dans la mesure où si vous faites 10, vous avez très bien réussi votre jet. Si vous faites 79, vous l'avez bien réussi, mais parce que vous êtes qu'à un point de l'échec. Moi, j'aime bien ça, c'est pas... Voilà, il y a une libre interprétation qui est un peu plus large, qui donne un peu plus de description, peut-être un peu plus d'immersion dans la réussite de tel ou tel jet. On y retrouve également les réussites critiques et les échecs critiques. Voilà, avec quelques spécificités liées à Aria, on retrouve les compétences classiques, artisanat, courir, discrétion, etc., etc. Les feuilles de perso sont bien foutues également. On a des compétences spécifiques qui sont assez fun. Alors, j'ai pas bien compris la manière de les créer, mais j'ai trouvé la mienne, c'est-à-dire que je vais essayer de proposer à mes joueurs une compétence spécifique un peu fun qui va pas totalement dénaturer le personnage, une compétence où il n'y a pas énormément de risques à les utiliser, mais encore une fois, l'actual play disponible sur Twitch donne énormément d'exemples, des exemples un peu farfelus, des exemples beaucoup plus sérieux, mais c'est des exemples quand même, et libre à vous de vous appuyer sur le système. Ensuite, pour les XP, bah, c'est pas compliqué, si vous faites un jet d'artisanat par exemple, vous cochez la case, et à la fin de la partie, vous avez le droit à un jet de dés pour augmenter ses XP. Admettons que vous lanciez un des 10, si vous faites 10, bah vous rajoutez 10 points dans cette compétence. Moi, je trouve que c'est un système qui marche bien, parce que habituellement, on donne des XP à un joueur et il les dépense où il veut, donc c'est pas mal. Mais il y a quelques petites incohérences. J'ai toujours un peu de mal en tant que joueur, à monter la compétence crochetage, par exemple, si je ne l'ai pas utilisée. Je trouve pas ça très crédible. Comment se fait-il que j'améliore une compétence dont je ne me sers pas ? Bon, et ben là, pour améliorer une compétence, il va falloir s'en servir. Et c'est bien ça, parce que, admettons que le joueur ait 20% dans une compétence, il a peu de chances de réussir, donc forcément, s'il fait un jet et qu'il échoue, ça peut avoir des petites conséquences. A contrario, s'il réussit, très bien. Auquel cas, il pourra justifier de mettre des points dedans. Moi, c'est un système qui me plaît bien. Alors après, à modérer, hein, parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec des joueurs qui tentent des jets dans toutes les compétences pour toutes les cocher. Donc là, j'ai pas encore bien trouvé la manière de modérer un petit peu ça. Après, ça peut être très vite fait, hein. Vous pouvez dire, bah, 5 compétences maximum, mais faut pas être trop limitatif non plus. Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses très bonnes à prendre là-dessus. On a pléthore de prétirés qui colle au scénario, avec bien évidemment des astuces et des petits conseils si toutefois vous décidez de faire vos créations de personnages. Il y a 3 types de créations, rapide, un peu moins rapide et complètement manuel. Ça aussi c'est très bien parce que vous pouvez être un peu à court de PJ. faire une partie au débeauté ou alors vous retrouver à la table avec un PJ qui meurt assez rapidement, et bien avec la création de personnages rapides, en 5 minutes c'est fait. Il y a juste à réfléchir un petit peu au BG, mais pour tout ce qui est question statistique, vraiment, sincèrement, en 5 minutes c'est fait. Vous faites addition, soustraction, multiplication via le schéma qu'on vous explique, et franchement, ça c'est très bien. On retrouve ce système dans INSMV de mémoire comme ça au débeauté. Ça doit exister dans l'autre, mais je sais que j'avais vraiment apprécié dans INSMV parce qu'on pouvait vraiment se permettre de faire plein de choses en très peu de temps. Et voilà, du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour de la présentation du bouquin. Alors, bien évidemment, j'ai oublié des choses. Bien évidemment, il y a des choses que j'ai dites qui ne doivent pas être vraies. Je m'en excuse. Je m'excuse auprès des puristes. Je m'excuse auprès de l'auteur. Encore une fois, quand j'enregistre mes épisodes, je prends très peu de notes et je fais très peu de montage. À titre d'exemple, pour cet épisode, j'ai dû arrêter l'enregistrement 3 fois pour ouvrir une page et vraiment pas dire de conneries, notamment pour la description des magies, mais voilà, j'ai dû forcément oublier des choses, ce qui me permet, je vous le cache pas, de créer un peu de contenu pour d'autres épisodes, parce que je reviens un petit peu sur la suite, mais je pense sincèrement en avoir dit l'essentiel. J'espère que vous avez à peu près compris l'ambiance dans le jeu de rôle, que vous avez envie de l'acheter, parce que sincèrement, c'est vraiment un très bon produit, accessible pour les débutants et même pour les confirmés. Il y a vraiment, vraiment plein de choses très très bonnes à prendre, et encore une fois, s'il y a des choses à jeter, faut pas hésiter à le faire. Donc dans le prochain épisode, on va se pencher très sérieusement sur le scénario d'introduction. Je vais vous le détailler, je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je vais vous dire ce qui en ressort, pourquoi j'ai enlevé certaines choses. Et ensuite on enchaînera sur alors peut-être pas la partie, mais sur l'explication des BG des joueurs, parce que je suis en train de m'entretenir avec eux pour savoir ce qu'ils veulent jouer, essayer de construire quelque chose de cohérent dans l'univers et surtout cohérent dans le groupe, parce que avec le temps on s'est aperçu que c'était quand même plus sympa d'avoir un groupe constitué de personnes polyvalentes pour éviter d'avoir 5 guerriers à la table. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est un conseil qui vous est donné dans le livre du jeu. Il est dit, quand vous créez un groupe, essayez de faire en sorte qu'il soit complet. Voilà, comme ça chacun aura dans la partie son petit moment de gloire. C'est à présent la fin de l'épisode. Alors je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur Twitter. Toutes les informations sont normalement dans la fiche descriptive du podcast. N'hésitez pas très sincèrement à me faire vos retours. En règle générale, je réponds à tous. Jusqu'à maintenant, les retours sont bons, hormis peut-être le son qui parfois pose un peu problème, ça grésille, ça couine ou le son est un peu bas. Croyez-moi que je mets tout en place pour améliorer ça, mais sans vos retours, moi j'ai beaucoup de mal à me rendre compte des soucis à régler. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la prochaine.